Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Vous le savez, l'émission Point de mire a l'habitude de recevoir un académicien ou un invité extérieur pour présenter un événement, une association ou une fondation. Et aujourd'hui, j'ai la joie non pas de recevoir une personne, mais deux invités, deux historiens. De surcroît, Fabrice d'Almeida, bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs vous connaissent bien, puisque vous avez réalisé plusieurs émissions pour Canal Académie, des portraits, portraits d'aventuriers. Vous avez fait toute une série aussi de portraits des dignitaires nazis, puisque vous êtes spécialiste du nazisme, directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, spécialiste du nazisme, je me répète, puisque vous êtes l'auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme » paru aux éditions Perrin. Nous avons fait une émission ensemble sur cette question. Nos auditeurs peuvent retrouver l'émission dans la médiathèque de Canal Académie. Et je reçois à ma droite, Christian Ingrao.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint donc de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous êtes, vous, l'auteur du livre « Les chasseurs noirs, la brigade d'Irlewanger » paru aux éditions Perrin. Alors donc, vous êtes lié à l'Institut d'Histoire du Temps Présent et la première question, j'allais dire, qui me vient à l'esprit et qui doit venir à l'esprit de nos auditeurs, c'est qu'est-ce que le temps présent ? Est-ce que le temps présent ne se confond pas avec l'actualité ?
Non, il y a une réelle différence et c'est une notion qui a beaucoup évolué. On pourrait presque dire qu'il y a eu trois âges de la notion d'histoire du temps présent. Un premier âge qui se situe à la fin des années 70, au moment où François Bédarida va créer un institut d'histoire du temps présent. Et à cette époque, l'idée, c'est de faire un grand centre de recherche qui travaille sur l'après-45, c'est-à-dire qui prenne en charge le tronçon le plus nouveau, en quelque sorte, de l'histoire, mais qui en même temps ne se confond pas exactement avec l'actualité, puisqu'au moment où il est créé, au fond, il va avoir à travailler sur l'opulence, alors même qu'on se situe dans une période de crise, et il va avoir à travailler sur de grands conflits de la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont éteints quand même depuis un bon moment, mais qui souffre d'une difficulté, c'est que la loi sur les archives interdisait l'accès et donc il fallait qu'il y ait une structure de recherche qui permette de négocier avec les autorités, de négocier avec les préfets, de négocier avec les archives départementales, de négocier avec les archives de France, avec les archives nationales, de manière à permettre à des chercheurs d'ouvrir ces dossiers qui, en principe, étaient encore tenus par la garantie d'une protection, je crois, de plus de 30 ans. Voilà. Donc effectivement, la première idée, c'était ça, travailler après 45. Deuxième idée, c'est celle de François Bédarida. Au fond, l'histoire du temps présent, c'est celle qui se définit par la présence de témoins vivants. Tant qu'il y a quelqu'un qui est capable d'interagir avec l'historien, de contester, de discuter, de faire venir en quelque sorte, de faire intervenir sa mémoire, son souvenir de l'événement, eh bien au fond, on se situe dans un temps historique, dans une manière de travailler l'histoire qui est un peu différente. Et puis il y a une définition un peu plus récente, qui est celle que nous avons essayé de solidifier avec Christian Ingrao, dont l'un des initiateurs est Peter Lagroux, un chercheur qui a été à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui maintenant est professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Et donc l'idée, c'est que le temps présent, c'est celui qui se définit par la charge d'affect que l'historien porte sur le passé. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter une définition subjective du temps présent, ce qui, en quelque sorte, nous permet de réfléchir aux modalités pour essayer de neutraliser les affects que l'historien peut faire intervenir dans l'écriture de l'histoire. Et l'une des solutions que nous avons proposées, c'est d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle une structure d'histoire partagée, c'est-à-dire avec un contrôle et une construction des objets historiques avec des collègues étrangers ou avec des collègues travaillant sur des niveaux historiques différents, de manière à ce qu'il y ait sans cesse un contrôle sur ce qui peut, en quelque sorte, façonner notre vision subjective, nous, historiens, de l'histoire.
Alors, je reviens tout de même sur la deuxième définition. Bon, l'historien... Les auditeurs le savent et les auditeurs étudiants travaillent sur du texte. Est-ce à dire que le fait qu'il y ait des témoins vivants, le travail de l'historien doit évoluer et finalement, l'historien doit, plutôt que se pencher sur des textes, aller vers les personnes qui ont vécu les événements pour les interviewer ?
Alors, il semble clair que l'historien est un chasseur d'archives, et évidemment la trace papier constitue toujours le fondement de l'activité historique, hein, le traitement, l'analyse, la mise au point de problématiques conditionnées par les archives, qu'elles soient d'archives d'État, archives privées, archives, disons, subjectives. Il n'en reste pas moins que l'un des grands acquis, si vous voulez, de l'historiographie générale, hein, des années 80 et 90, c'est que tout est archive. C'est-à-dire que l'historien ne va pas s'interdire d'aller solliciter le questionnement oral des témoins, et d'un autre côté, il y a toute une nouvelle série d'archives qui est en train d'apparaître à l'heure actuelle et sur lesquelles il est bien temps, il est grand temps de commencer à mener une réflexion. Je pense ici à toute la parole qui est issue des blogs, des forums, etc., etc., qu'on peut transformer en traces papier, mais qui est une nouvelle forme très très hybride d'archives qu'il va nous falloir apprendre et à conserver, et à stocker et à traiter.
Alors ça peut même aller un peu plus loin, hein, Christophe. C'est-à-dire que faut penser que le travail de l'historien, c'est pas non plus le travail de quelqu'un qui est dans une bulle de verre. C'est-à-dire que quand on a fait les grands colloques de l'IHTP dans les années 70, dans les années 80, enfin, les années 80-90, il y a en général un moment dans le colloque où on invite des grands témoins. Et là, il y avait parfois des confrontations extrêmement brutales. Je ne suis pas le seul à rappeler, même à l'étranger, Eric Hobsbawm raconte ça. Il a un colloque sur le massacre de Marzabotto, qui était un massacre fait par les nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il se trouve confronté, lui, historien, avec des témoins qui ont vécu cette période et qui lui disent « Non, ça ne s'est pas passé comme ça ». Et donc, à chaque fois, quand on travaille sur des périodes récentes, on a cette arrivée du témoin. C'est ce qui surgit dans le discours. Là, en ce moment, on a discuté récemment d'une grande enquête sur mai 68, les historiens en mai 68, qui est coordonnée par une jeune historienne qui s'appelle Agnès Calu. Et on voit bien, elle rencontre les gens pour faire des entretiens, pour constituer des sources. Mais il est bien évident qu'ensuite, elle sera comptable vis-à-vis de ses témoins des résultats de la recherche qu'elle va produire. Donc ça peut donner lieu à des discussions parfois très vives, très violentes. C'est pour ça que cette interaction avec le témoin est très importante.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a cet affect. Et finalement, dans les 20 dernières années, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale a été complètement renouvelée et est devenue très importante pour nos contemporains. D'ailleurs, c'est un phénomène qui a été analysé par Henri Rousseau, oui, si je ne m'abuse, sur la question de Vichy.
Oui, et c'est typiquement le genre de sujet sur lequel les témoins ont été très importants. Si on pense à Jean Moulin, la grande figure entrée au Panthéon 19 décembre 1964, bon, Jean Moulin, au fond, il va sortir dans l'historiographie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jour, un des acteurs de cette époque, Freinet, qui se met à écrire des phrases dures sur Jean Moulin. Donc, en réaction, il va y avoir le travail de Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, qui va intervenir. Donc, vous voyez, là, on est dans les témoins. Et puis, là-dessus, travail d'historien, Jean-Pierre Azéma intervient. Et puis, là-dessus, polémique avec d'autres personnes, comme Bénac, puisqu'il y a un livre qui paraît en ce moment. Donc, c'est ça la complexité de l'histoire du temps présent. C'est qu'on a ces figures-là qui interviennent, qui tiennent un discours. Et donc, effectivement, l'un des grands apports du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis de l'Institut d'histoire du temps présent, ça a été de dire oui, nous devons prendre en charge cette écriture de l'histoire aussi par les témoins et essayer de la prendre de manière distanciée en la considérant en quelque sorte comme la mémoire de l'événement. Et donc, ça a été un des lieux principaux, et vous avez bien fait de citer Henri Rousseau, qui a élaboré ce concept de mémoire avec d'autres et qui a contribué à montrer qu'il y avait une histoire de l'histoire et une histoire aussi de l'histoire du temps présent.
Alors, oui. Et oui, et tout cela, et il faut rajouter à tout cela aussi que l'une des choses qui est centrale dans cette définition de l'histoire du temps présent, c'est la demande sociale, la pression sociale autour des thématiques et des sujets des historiens. Et on voit très bien comment tout ça fonctionne. L'équivalent de notre laboratoire dans les Pays-Bas, hein, à Amsterdam, a à un moment dû bloquer le troisième étage de son bâtiment pour permettre à une commission d'historiens de travailler sur les événements de Srebrenica, si vous voulez. Et là, la demande sociale était à la fois, si vous voulez, très néerlandaise, mais aussi en même temps liée à l'ONU, liée à l'Union européenne, et le rapport d'un collègue du NIOD a fait démissionner le gouvernement, tout simplement.
Alors, c'est une des caractéristiques de l'IHTP, c'est qu'elle est liée à plusieurs organismes internationaux, plusieurs instituts de recherche.
Oui, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années une politique d'ouverture systématique sur l'étranger. La chose a commencé, si vous voulez, avec un réseau, disons, des instituts d'histoire du temps présent, avec un centre à Bruxelles qui s'appelle
le CGS,
excusez-moi, un centre donc à Amsterdam qui s'appelle le NIOD, un autre qui s'appelle l'Institut für Zeitgeschichte, IFZ, Hallstatt à Munich, ainsi que des centres en Italie. Donc il y a une sorte de réseau mère, si vous voulez, d'instituts. Et puis depuis maintenant 5-6 ans, l'européanisation de ce type de recherche est bien avancée. On a des liens avec de multiples universités allemandes, des espagnols, des anglais, etc.
C'est très important pour le chercheur, parce que la vision, non pas européenne, mais la vision plurinationale aide finalement une certaine objectivité, alors que nous avons tendance en France à avoir un regard précisément franco-français.
Franco-français, oui, tout à fait. Si je voulais être un petit peu provocateur, si vous voulez, je dirais que la balance générationnelle a fait que jusqu'à la génération qui nous précède, qui a été pionnière en la matière d'européanisation, les gens faisaient par exemple l'histoire de Vichy sans parler un mot d'allemand et sans être capable d'aller voir une seule archive. Mmh. Et si vous voulez, quand vous apercevez que la Seconde Guerre mondiale, en gros, c'est une guerre germano-russe, plus de la moitié des morts y ont lieu, c'est 26 millions de morts, tout simplement, vous apercevez que ce qui se passe en France, et comme on a affaire à un secteur extrêmement calme de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, si vous voulez, c'est notre génération qui est en train de le découvrir et de le dire. Mmh. On a la plus grosse communauté juive d'Europe en France, tout simplement parce que les taux de survie sont extrêmement élevés par rapport à la Pologne ou à la Russie.
Mmh. Donc nous ne pouvons qu'inciter les étudiants, on ne le répétera jamais assez, à pratiquer leur langue.
À pratiquer leurs deux langues. L'anglais, maintenant, c'est le minimum vital. Et avoir une deuxième langue, c'est évident.
À profiter des accords d'échange, Erasmus, Socrates, à aller à l'étranger. Oui. Cela dit, il y a eu quand même plusieurs étapes dans cette construction d'une histoire qui s'internationalise. Il y a eu une première étape il y a assez longtemps, qui était autour de Henri Michel et qui avait créé un comité international d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est une institution qui existe encore, à laquelle l'IHTP est toujours rattaché. Et donc cette institution avait largement contribué à créer un milieu international d'historiens qui se connaissent, qui se reconnaissent, et notamment avec une commission internationale d'histoire des mouvements sociaux, puis un comité international des sciences historiques, dont le fondateur de l'IHTP, François Bédarrita, a été le président pendant une dizaine d'années. Donc c'est aussi ce qui explique que ce laboratoire-là ait eu quand même assez précocement une ouverture vers l'étranger et contribue à faire venir des chercheurs, à envoyer des chercheurs à l'étranger. C'est ce qui explique qu'il y ait des gens qui aient travaillé sur l'Union soviétique, qui aient travaillé sur la Tchéquie, qui aient travaillé sur l'Allemagne, et qui se soient finalement retrouvés au sein de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et donc, on garde la tradition, mais en allant un peu plus loin, c'est-à-dire ce qu'a dit Christian Ingrao est tout à fait juste. Auparavant, on travaillait chacun dans son pays, et ensuite, on se mettait côte à côte dans un colloque pour chacun réciter sa leçon nationale. Et au fond, maintenant, l'étape qui a été franchie, c'est d'essayer d'avoir en France des gens qui travaillent sur les pays étrangers et qui sont capables de faire la comparaison. C'est-à-dire de faire terme à terme, de prendre des archives allemandes et des archives françaises et de regarder comment se déroule un phénomène, de prendre des archives américaines et des archives russes pour discuter, par exemple, de la guerre froide et non pas de faire l'histoire de la guerre froide vue de France et puis d'aller ensuite discuter avec le collègue américain pour avoir le parallèle.
Alors, venons-en, si vous le voulez bien, là, substantifiquement, il y a des formations doctorales à l'IHTP, les étudiants peuvent s'inscrire en thèse. Alors,
on est rattaché à des écoles doctorales et principalement, pour l'instant, l'école doctorale avec laquelle nous travaillons le plus, c'est celle de Paris 10. Mmh. Et puis, il y a aussi quelques étudiants qui sont dirigés à Sciences Po ou à Paris 1. Et comme on a le désaccord de co-tutelle, on a aussi pas mal d'étudiants étrangers qui font des thèses avec des chercheurs du laboratoire.
Alors, comme toute école, il y a des axes de recherche. Quels sont les axes de recherche de l'IHTP ?
Alors, axe de recherche, c'est toujours le côté un peu planification à la française. C'est-à-dire que tous les laboratoires doivent fournir un certain nombre d'axes pour indiquer quelles sont leurs logiques. Nous, en fait, nous avons quatre axes de recherche. L'un qui correspond à un travail assez ancien du laboratoire qui est sur la violence de guerre et les guerres au XXe siècle. Et un deuxième axe qui, lui, est, disons, plus sur le versant positif de l'histoire du XXe siècle, c'est la société du bien-être, toutes les logiques qui ont été effectuées pour essayer de faire coller les styles de vie avec une certaine forme d'organisation du pouvoir, avec une certaine forme d'organisation des institutions publiques. Puis nous avons un axe qui réfléchit plus spécifiquement à la question de la justice et à la question de la politique. Et enfin un dernier axe qui est un peu transversal dans lequel on aborde les questions d'épistémologie, d'historiographie. En gros, on essaie de poursuivre la réflexion que nous avons eue au début de cette émission sur la définition du temps présent, la façon dont l'historien peut travailler sur ces périodes, sur ces événements qui sont extrêmement chauds, sur lesquels il y a une pression, une demande sociale tout à fait importante. Donc, ça nous paraissait important d'avoir un axe où nous réfléchissons sur nos pratiques et nous réfléchissons sur les manières de travailler de l'historien.
Christian Ingrao, tout à l'heure, vous nous disiez que, en fait, vous faisiez partie d'une nouvelle génération qui allait vers l'Europe, vers les pays étrangers. Là, dans les axes de recherche présentés, eh bien, l'économie semble absente. Est-ce aussi la fin d'une époque, c'est-à-dire non pas la fin de l'école des annales, mais en tous les cas, la fin de l'exclusivement économique ?
La question que vous posez est une question extrêmement intéressante. On a à l'heure actuelle un certain nombre de points méthodologiques qui font que même si l'héritage de l'école des annales, l'héritage de cette histoire sociale très importante, très impressionnante qui s'est faite jusque dans les années 90 dans un certain nombre de lieux comme l'école des hautes études reste pour nous quelque chose d'important, nos choix scientifiques nous portent dans les interstices de cette histoire sociale, dans l'aventure de la micro-histoire, dans celle de l'anthropologie historique, notamment celle de la violence, dans l'utilisation et la migration d'un certain nombre de concepts issus par exemple de la psychiatrie, etc. etc., qui nous permettent d'aller voir les comportements au plus près du terrain. Et il est clair que l'histoire économique telle qu'elle a été pensée dans les années 80 et jusqu'au tout début des années 90 par les tenants des annales, mais aussi par toute l'école autour de François Crouzet, etc., etc., est maintenant, si vous voulez, moins présente, en tout cas au sein du labo.
En fait, c'est vrai ce que dit Christian, c'est-à-dire qu'au fond, c'est plus l'économique pour l'économique. Quand il y a de l'économique, au fond, c'est pour réfléchir à des processus culturels, à des processus politiques. C'est pas une disparition, je dirais plutôt que c'est une mutation. Mais de la même manière, si on réfléchissait, si on nous disait « est-ce que vous faites de l'histoire politique stricto sensu ?», c'est pas non plus le cas. Ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu dépositaire, ou je dirais héritier plutôt, de cet essai de faire une histoire totale auquel appelait Fernand Braudel. Il y a cet idéal de prendre des périodes très bien délimitées, parce que tout à l'heure, je parlais des axes, j'ai parlé de choses générales, mais on a une vraie spécialité sur le nazisme. On a une vraie spécialité sur le stalinisme, avec Nicolas Werth, qui est dans le laboratoire.
Oui, on a aussi une spécialité monde coloniaux aussi.
Autour de la guerre d'Algérie, avec Samia El-Meshat, Malika Rahal, qui sont des chercheuses qui travaillent chez nous, Raphaël Branche, qui travaille aussi chez nous. Donc, il y a sur des sujets comme ça qui peuvent paraître, disons, des sujets très délimités chronologiquement, il y a la volonté de les travailler pleinement, c'est-à-dire d'en voir aussi bien les ressorts politiques, économiques, culturels. Au fond, que quand Christian Ingrao parle d'une anthropologie historique, c'est un peu ce projet-là. C'est un projet de travailler la totalité de ce qui fait un homme à un moment donné.
Oui. Et le front pionnier de cette histoire, si vous voulez, quand on peut faire une histoire, disons, je reprendrai une distinction que faisait Canguilhem quand il parlait de la philosophie. Il y a deux types de philosophie, il y a la philosophie des concepts et la philosophie de l'expérience. Faire l'histoire du réel avec une histoire sociale, une histoire économique, etc. Tout ça, on sait faire et on a tous intégré. Maintenant, on en fait sans le dire. Mais ce qui est de faire l'histoire des subjectivités, ce qu'en allemand on appelle Erfahrungsgeschichte, l'histoire de l'expérience humaine, c'est-à-dire le côté culturel, l'interface entre représentation et réel, c'est sans doute ce qui, en ce moment, motive le plus les chercheurs du laboratoire, Fabrice, moi, Nicolas, etc.
Vous avez utilisé un terme allemand que je ne saurais redire, parce que je ne parle pas l'allemand. L'IHTP a été pionnière en France, mais est-ce que le concept vient de l'étranger ?
Le concept est un concept qui est en train de se forger à l'heure actuelle, à la fois par des historiens français comme Fabrice et moi, et des historiens allemands comme Gerd Krumach, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, comme Michael Wildt, etc., etc.
Jörg Eschtenkamp, il y a beaucoup de noms. Oui. C'est vrai qu'il y a...
Vous dites qu'il y a beaucoup de noms, on est assez impressionnés comment nos auditeurs peuvent se rendre sur le site www.ihtp.cnrs.fr. On est vraiment impressionnés par la liste des chercheurs, il y a un véritable annuaire.
Il y a des partenaires qui ont accepté de travailler avec nous. Ce qui est important à dire, c'est que nous sommes encore pour l'instant ce qu'on appelle une unité propre de recherche du CNRS. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une institution de tutelle qui est le CNRS. Et c'est au fond ce qui nous permet pour l'instant encore de maintenir des relations avec des enseignants-chercheurs venus des universitaires, venus de tout un tas d'établissements différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'exclusive. Donc c'est un des aspects importants à souligner qui explique qu'on puisse avoir ainsi des gens qui travaillent dans des universités parisiennes, dans des universités de province, dans des universités étrangères, qui acceptent d'être chercheurs associés de notre laboratoire et donc de nous aider à mettre en œuvre le programme de recherche qu'on a défini ensemble.
On a l'impression, à vous entendre, qu'il y a une énorme flexibilité en fait dans votre réseau.
Ben oui, c'est assez souple.
Ce qui en fait sa force ?
Oui, c'est en même temps c'est une force, en même temps c'est une faiblesse, puisque l'heure en France est à l'idée justement des regroupements, des resserrements, la définition de politique stricte. Vous savez qu'on a eu des changements de loi de budgétaire, donc maintenant on ne programme plus véritablement sur 4 ans, ou quand on programme sur 4 ans, on vous donne les sommes année par année, qu'il faut dépenser immédiatement, etc. Donc il y a une dimension quand même bureaucratique qui tendrait à vouloir justement amoindrir cette souplesse. Et donc il faut sans cesse essayer de discuter pour faire valoir le point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire d'essayer de s'adapter, de se couler sur le terrain de la recherche plutôt que de couler la recherche sur le terrain bureaucratique.
Mmh. Il existe des publications
oui.
de l'Institut ?
Oui, oui, oui. On a plusieurs, on va dire, débouchés pour notre travail. Bon, il y a bien sûr individuellement, on publie tous des livres chez des éditeurs. On a une collection, qui est la collection d'Histoire du temps présent, qui est publiée avec l'éditeur Complex à Bruxelles et qui existe depuis maintenant, je crois, une dizaine d'années. On a publié une vingtaine de titres, donc quand même de très grands livres, hein, comme Le continent des ténèbres de Marc Mazover, qui est paru dans notre collection. Ça a été une initiative d'Henri Rousseau, dont nous partageons la fierté. Il y a ensuite une autre publication qui est le bulletin de l'IHTP. Il y a un numéro qui vient de paraître sur les autobiographies, en fait, avec un inventaire des autobiographies qui sont conservées chez nous et dans l'Association pour le patrimoine autobiographique autour de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça permet vraiment de voir la variété des témoignages pour cette période, les prisonniers, les ingénieurs, bref, tout un tas de figures différentes qu'on peut voir,
oui,
comme ça.
Et là,
ça.
J'aimerais vous dire encore une fois qu'on voit très bien comment, dans cette politique éditoriale-là, cette question de la subjectivité des acteurs et de l'historicisation de la subjectivité, hein, Erfahrungsgeschichte, comme je vous disais, l'histoire de l'expérience humaine est importante. Elle se voit aussi dans nos publications, même quand il n'y a pas de travail historien.
Le prochain numéro, d'ailleurs, il faut peut-être attirer l'attention, oui. puisqu'il va paraître, je pense, dans quelques jours, on l'attend, comme un petit croissant tout chaud. Il va être sur la grande terreur en Russie, c'est Nicolas Werth qui l'a coordonné, et donc ce sera un numéro particulièrement important. Nous avons ensuite le site internet sur lequel nous publions plusieurs choses, et puis nous avons occasionnellement des partenariats quand on doit éditer un colloque, quand on doit publier une journée d'études, voilà. Donc ça passe beaucoup par le livre, et puis nous avons quelques collaborations avec des médias, et Canal et Academy est un de nos partenaires réguliers.
Le bulletin est disponible sur le site ?
Le bulletin est en partie disponible sur le site et parfois avec des compléments par rapport à la version papier. Donc le site est assez riche, effectivement.
Mmh. Vos séminaires, votre calendrier ?
Alors on a beaucoup de séminaires, il y en a plusieurs dont le programme est mis en ligne.
Je rappelle tout de même le ihtp.cnrs.fr.
Il y a en gros une dizaine de séminaires qui sont liés au laboratoire, séminaires sur le monde colonial coordonnés par Malik Aral, séminaires sur le cinéma notamment coordonnés par Christophe Gauthier et Dimitri Viziroglou, qui est fait aussi en collaboration avec l'Institut National d'Histoire de l'Art, l'INHA, séminaires sur l'histoire des croyances politiques et sociale que je fais avec Nicole Edelman en collaboration avec l'Université de Paris 10 Nanterre. Christian, tu vas m'aider parce que je n'arriverai pas à me souvenir de tous.
Séminaire des pratiques d'occupation Est-Ouest qui est fait en collaboration avec, entre l'École des hautes études et nous, donc l'IHTP.
Séminaire d'Agnès Calus sur mai 68.
Mai 68. Donc là, c'est École des chartes, Collège de France, Institut d'histoire du temps présent. Bon, et puis on s'y perd, Fabrice. Il y en a tellement que...
On va se faire gronder par nos camarades parce qu'on en a oublié.
Oui, séminaire d'histoire de la justice, séminaire d'histoire de la violence, séminaire violence de guerre.
Séminaire d'Henri Rousseau, Annette Becker, voilà, et Nicolas Werth avec l'Université de Paris 10 Nanterre.
Oui. L'Institut est bien vivant.
Merci.
Écoutez, merci à tous les deux. Merci Fabrice d'Almeida.
Merci.
Je rappelle donc que vous êtes directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, vers lequel je dirige tous les étudiants qui le souhaitent. Vous êtes l'auteur aussi du livre La vie mondaine sous le nazisme, paru aux éditions Perrin. Et les auditeurs peuvent vous écouter sur Canal Academy, donc dans la série des portraits. Merci Christian Ingrao, vous êtes directeur adjoint et l'auteur du livre Les chasseurs noir, paru chez Perrin. À très bientôt pour un nouveau numéro de Point de Mire.